France Musique.
Bon week-end Nicolas Lafitte et à très vite.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous, à journée spéciale, matinée un peu spéciale sur France Musique. En effet, nous irons visiter les coulisses de la maison de la radio, comme chaque samedi, mais en sifflotant un air de crooner grâce aux précieuses archives de Jean-Yves Pat. Le portrait sera celui du compositeur Magnus Lindbergh, en résidence à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Dans son reportage, Hugo Brisset est allé enquêter. Frank Sinatra est-il toujours vivant ? La réponse dans quelques instants. Puis à 8h20, ce sera la chronique de Marie Fauché. À 8h30, Jean-Yves Pat, en vrai crooner, n'aura plus besoin de feindre. À 8h45, nous évoquerons le souvenir musical de l'un d'entre vous, dans Parlez-moi de musique. Et enfin à 8h50, nous retrouverons notre feuilleton Question de cœur avec Sophie Janin. Vous nous suivez ?
France Musique.
Bonjour Magnus Lindbergh.
Bonjour.
Merci d'être venu nous rejoindre. Vous êtes donc un compositeur en résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, ce qui veut dire que cette année, on va jouer plusieurs de vos pièces. Hier soir, les auditeurs ont pu entendre votre concerto pour violoncelle, c'est ça ?
C'est ça, oui. Le deuxième concerto était joué par Anssi Karttunen comme soliste et Mikko Frank a dirigé l'orchestre.
C'était un concert finlandais alors.
Mais oui.
Un concert familial.
Tout à fait.
Vous connaissez très bien Anssi Karttunen avec qui vous avez partagé beaucoup d'expériences musicales, non ?
Ah oui, ça fait déjà 40 ans qu'on se connaît et on a travaillé tellement ensemble. En 1980, on a créé notre groupe qui s'appelait Toimi Ensemble et c'était une sorte de laboratoire pour faire la musique expérimentale. Et depuis, j'ai écrit plusieurs pièces pour Anssi, 83. Une pièce qui s'appelle Zona, Zone, pour violoncelle et ensemble, et 85, Kraft, un concerto mini, concertante pour clarinette, violoncelle et petit ensemble dans les années 90. Après, premier concerto pour violoncelle, maintenant le deuxième.
Toujours Anssi Karttunen.
Oui.
Vous êtes fidèle. Alors je vous propose qu'on reste un moment en Finlande avec la première musique que nous écoutons.
Thank you.
Magnus Lindberg, bien sûr, vous l'avez reconnu.
Eh oui, Sibelius, quatrième, on vit bien avec ça.
Oui, Sibelius, c'est incontournable en Finlande.
Et surtout, en cette époque, on vient de fêter son 150e anniversaire.
Oui.
Donc il n'y a presque pas eu un concert sans Sibelius cette année.
C'est vraiment vrai. En même temps, Magnus Lindberg, je crois que Sibelius apparaît comme un compositeur très classique. Vous avez une vision un petit peu différente de lui?
Bien sûr que le langage musical est classique dans le sens qu'il il est demeuré dans la pensée tonale. Mais c'est ce qu'il fait au niveau de forme, c'est ce qu'il fait au niveau de transformation, de métamorphose du matériel, etc. Me paraît quand même très avancé pour son temps. Un peu comme dans le sens que travaillait Varese avec le son. Je trouve que Sibelius a travaillé avec le côté profond de la musique, sans toucher la surface au niveau de quitter la tonalité. C'est pour ça que sa musique a été peut-être un peu nécessairement justifiée comme ancienne, dans le sens que ce n'est pas correct.
On redécouvre Sibelius, on y trouve beaucoup de charme. Vous avez été influencé par cette musique ?
Bien sûr qu'on ne peut pas vivre sans être influencé par Sibelius en Finlande. Mais ce n'était pas du début pour moi, c'était plus tard. Bien sûr, je connaissais sa musique depuis longtemps. Mais en tant que compositeur, il m'a commencé à influencer plus tard. Aussi cette clarité de forme, ce goût pour des choses archaïques, des choses qui prennent le temps, qui est parfois presque triste, mais jamais sentimental. C'est une chose qui me frappe chez lui. C'est une musique qui n'est pas sentimentale ni nostalgique, mais il y a une sorte de calme, quelque chose qui touche des cordes très, très graves.
Mmh. Il y a un autre compositeur qui me semble fondamental quand on est compositeur soi-même, c'est Jean-Sébastien Bach. Nous écoutions un court extrait de la chaconne de la partita numéro 2 pour violon de Jean-Sébastien Bach par un interprète que finalement vous connaissez, Magnus Lindberg, c'est Teddy Papavrami.
C'est un musicien extraordinaire et j'ai eu le grand plaisir de travailler avec lui. On a joué ensemble mon premier concerto pour violon et orchestre à Genève avec lui comme soliste et moi j'ai dirigé l'orchestre. Donc c'est un souvenir extraordinaire et j'ai une très grande admiration pour ce musicien fabuleux.
Magnus Lindberg, je n'ai pas choisi cette chaconne par hasard. Je crois que la structure chaconne, l'idée de la chaconne est une idée constructionnelle qui vous intéresse ou qui en tout cas vous a intéressé. Pourquoi ?
Oui, cette idée d'enchaîner des accords et revenir à ce cycle des accords a été un modèle compositionnel que j'ai utilisé dans plusieurs pièces. Pour moi, au début, c'était quelque chose qui m'aidait à établir une identité à une pièce telle et revenir cycler les accords au fur et à mesure. On découvre le monde derrière et comme chez moi, il s'agit souvent des accords de grande densité avec des notes principales et des notes secondaires, des harmonies spectrales, même comme ça. Ça m'a bien aidé à donner une unité à des pièces, cette idée de revenir à un modèle qui était déjà utilisé dans la musique baroque à l'époque, le chaconne.
Bach, Sibelius, y a-t-il d'autres compositeurs qui vous ont marqué ?
Lucien, surtout, ça c'est avec l'expérience dans la musique. Bien sûr, quand j'étais jeune, c'était la musique moderne.
Sérielle, post-sérielle.
Xenakis, avec Stockhausen, avec ce que faisait Boulez, Berio, etc. Mais au fur et à mesure, quand on a bien trouvé sa voix...
Son langage aussi.
Son langage, oui. J'ai allé chercher ça d'où ça venait à l'époque. Un compositeur qui, pour moi, demeure très profondément essentiel encore, c'est toujours Beethoven. Mais même Monteverdi, bien sûr, Stravinsky, Bartok, Ravel, Debussy, bien sûr, mais peut-être dans mon cas, encore plus Ravel, quelque part. Je cherche toujours l'influence en écoutant la musique qui nous sommes quand même privilégiés d'avoir tellement belle musique de cette époque différente à notre main.
On reste dans le monde moderne, si vous le voulez bien, avec la musique suivante. Vous avez cité cette école de Darmstadt, en fait, qui vous a pas mal influencé, Berio. On passe de l'autre côté de l'océan Atlantique maintenant. Thank you. Un extrait de Music for 18 Musicians de Steve Reich, joué par l'ensemble Signal, je dirais plutôt, qui est dirigé par Bradley Lubman. C'est une musique qui vous parle, Magnus Lindberg. Vous êtes un peu loin de cette musique américaine, non?
Oui, personnellement, si on compare cette musique avec ma propre musique, on est loin. Mais en même temps, j'ai toujours eu une grande admiration pour la musique de Steve. Mm. Et là, il y a quelques mois, j'ai assisté à un concert consacré à sa musique et joué par le superbe ensemble qui pilote Colin Curry. Et Steve Reich était là et après concert, j'ai parlé longtemps avec lui et c'est quand même fantastique de voir comment lui venait de la musique classique et il a cherché un autre chemin pour trouver sa propre musique et comment il avait étudié la musique africaine et la musique patane et comment il a au fur et à mesure il a créé un style qui aujourd'hui
parle beaucoup de notre jeunesse.
Mais c'est ça,
mais c'est vrai.
C'est fantastique.
Quelque chose d'assez trans, un petit peu comme la musique techno.
Mais oui, ouais. Et lui-même était très content par ce fait qu'un compositeur qui a, est-ce qu'il est déjà 80, je crois,
oui.
Et influençant une nouvelle génération qui vient de cette musique, peut-être d'un autre angle. Et c'est, pour moi, c'est une musique qui est très classique, dans le sens que même s'il utilise son matériel musical de manière différente par rapport à la musique classique. Il respecte son matériau très bien et comment le forme, comment la structure, comment le temps est distribué dans sa musique, très respectueux.
Magnus Lindberg, on a écouté un petit peu la musique des autres, on va terminer par la vôtre quand même. Donc vous êtes en résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, ça veut dire qu'une de vos pièces a été jouée hier soir, une autre sera jouée en février, une autre en mai. C'est bien qu'un orchestre s'imprègne de la patte du compositeur, de son langage musical, non?
C'est un très grand privilégié d'être joué pendant toute une saison aussi tard.
Mmh. Pour vous, c'est une façon de rencontrer vos interprètes, en fait.
Tout à fait.
Vous avez des choses à leur dire?
Ah,
quand vous venez aux répétitions, qu'est-ce que vous leur dites?
Voilà, quand j'ai assisté à des répétitions cette semaine, je me trouve parmi des vieux amis. C'est un orchestre que j'ai dirigé et j'ai joué avec eux en tant que soliste. Et ils ont joué plusieurs pièces de moi pendant des années. Donc c'est aussi presque nostalgique pour moi de revenir à Paris dans ce rôle.
Magnus Lindberg, c'était vous qui dirigiez le Tapiola Sinfonietta dans cette pièce que vous avez composée. C'est un extrait d'une pièce qui s'appelle Souvenir. C'est le souvenir de qui ?
J'ai appelé la pièce Souvenir en pensant à Gérard Grisset, qui était mon professeur ici en France, 80-81. C'est aussi quelque part un hommage à un autre professeur avec qui j'ai étudié à l'époque, Franco Donantoni, qui écrivait dans les années 50 une pièce qui s'appelait Souvenir, une sorte de camaro chamber concerto.
Merci beaucoup Magnus Lindberg. Alors je rappelle aux auditeurs de France Musique qu'ils ont la chance de pouvoir réécouter votre deuxième concerto pour violoncelle pendant 30 jours sur le site de francemusique.fr, un concerto que jouait hier soir Hansi Karttunen, et l'Orchestre Philharmonique de Radio France était dirigé par Mikko Franck. On vous retrouve au mois de février, vous revenez ?
Absolument.
Alors à bientôt.
À bientôt.
Georgia, Georgia, the whole day through, just a little song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind, Georgia, Georgia, just a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. My Georgia, my Georgia, no peace I find, just a little song keeps Georgia on my mind.
En clin d'œil à cette journée dédiée à Frank Sinatra aujourd'hui sur France Musique en avant-première, un petit trésor apporté par Jean-Yves Pat. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Eh bien oui, c'est un petit trésor, comme vous le dites, puisque c'est le grand Oagi Carmichael, celui qui a créé Georgia on My Mind, qui l'a enregistré lui-même. Toute sa vie, il a créé, il a façonné les chansons, les plus belles chansons des crooners. Il aurait voulu avoir un orchestre à lui, faire une carrière, mais il était tellement demandé par ailleurs qu'il n'a enregistré que très rarement. Et donc c'est une petite perle.
Et en plus, cette chanson est devenue l'hymne de la Géorgie.
En 1979.
On vous retrouve tout à l'heure, Jean-Yves.
À tout à l'heure.
Bonjour Hugo Brisset.
Bonjour Dominique Boutel.
Alors Hugo, en cette journée spéciale qui va célébrer Frank Sinatra sur France Musique, vous êtes allé questionner le souvenir du crooner.
Oui, je me suis faufilé dans les coulisses de la Maison de la Radio pour parler de Sinatra avec des musiciens de l'Orchestre National de France, quelques minutes avant un concert qu'il donnait à l'auditorium. Alors vous savez, ce fameux moment où les mélodies commencent à envahir les esprits, l'instant idéal pour parler musique. Et aussi, j'ai essayé de les faire fredonner hein, quelques airs de Frank Sinatra.
Vous n'avez peur de rien, Hugo Brisset.
Avec plus ou moins de succès.
Nicolas Vallier, violoniste à l'Orchestre National de France. Ah bah c'est la voix d'or du jazz et de la musique américaine. C'est le crooner incontesté, toute catégorie on va dire. On aimerait encore entendre ce genre de voix aujourd'hui avec tout ce que ça comporte de vie musicale, de swing, de luxuriance sonore on va dire. Voilà.
Justement, aujourd'hui, vous arrivez à retrouver des artistes qui marchent un peu sur ses pas ?
Oui, il y a des grandes voix de jazz. Plus chez les femmes, je trouve, il y a des très, très belles voix. Mais justement, il y a une espèce de nostalgie un petit peu dans ce qu'on écoute sur les radios de jazz. On voit qu'on tourne un petit peu en rond sur des remakes ou des reprises plutôt.
C'est une époque qui vous a marqué musicalement. Est-ce que vous écoutez encore aujourd'hui ?
Oui, toujours. De toute façon, on l'écoute toujours parce que c'est vraiment inaltérable, j'allais dire, dans la culture jazz. Il y a aussi Harry Connick Jr. qui a essayé de faire ça dans les années 90, je crois. On a une telle référence à Frank Sinatra qu'il y a toujours cette comparaison qui vient à l'oreille. Et puis, on retourne vers lui parce que c'est, voilà, quand on écoute ses grands titres, My Way, ou les reprises qu'il a faites... C'est magnifique, quoi. C'est la voix en or, comme on dit.
Justement, il y a des titres qui vous viennent à l'esprit là, quand je vous parle de Frank Sinatra.
Moi, il y en a un qui m'a toujours parlé, j'écoutais ça à dos, c'est When I Was 17. Je trouve que c'est une musique très nostalgique, et à la fois, il y a une orchestration très classique, donc avec ce hautbois comme ça, qui fait le pendant de la voix de Frank Sinatra. Moi, j'adore, parce que c'est une musique plus intime que les grands titres New York, ou... Comme je disais, My Way, ou ces grands titres très, très orchestrés, beaucoup de cordes. Là, c'est vraiment plus intime. Et finalement, on le retrouve moins démonstratif vocalement. Donc, j'aime beaucoup ça.
Ouais. Vous seriez capable de la fredonner, cette chanson ?
Ça ferait When I Was 17.
When I Was 17. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17,
je suis Michel Moraguès, flûtiste à l'Orchestre National de France. Frank Sinatra, pour moi, ça évoque, ça peut évoquer beaucoup de choses, mais en premier lieu, ça évoque la fête, ça évoque le crooner, ça évoque la voix, c'est une voix, quoi. Pour moi, comme on dit aujourd'hui, The Voice, c'est Frank Sinatra, je le reconnaîtrai entre mille. Encore aujourd'hui, dès que je suis souvent sur TSF, et dès que j'entends cette voix, c'est quelque chose qui me prend, quoi. C'est une espèce de timbre et de qualité, de vocal, de chant. J'ai vu même des enregistrements vidéo de ces enregistrements professionnalisme et ça me donne envie de danser, ça me donne envie de chanter, ça me donne envie d'aller aux États-Unis, ça me donne envie de... Mon rêve, ça aurait été de faire ça un jour, de pouvoir chanter et voilà. Donc c'est juste un rêve et un rêve de fête, quoi. C'est quelque chose de très fort et sur le plan émotionnel, ouais, ça me parle, quoi. À la radio, dès que j'entends sa voix, là, je coupe pas. Je change pas de poste.
Oui,
je pense que Frank Sinatra est populaire dans le monde entier, évidemment. Il a inspiré énormément de chanteurs de différentes générations, sûrement. Et moi, je vais beaucoup en Corée. Il y a beaucoup de chanteurs aussi qui sont dans le style balade en Corée, qui ont de très belles voix aussi, dans le même esprit, dans un style un petit peu différent, mais dans le même esprit vocal. Et voilà, j'adore les balades vocales comme ça, c'est super. On rêve de rencontrer des grands comme ça un jour, de croiser leur chemin, pourquoi pas même de jouer avec eux. Oui, ça aurait été un rêve total, bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Oui, David Rivière, violoniste, Orchestre National. Frank Sinatra, bon, évidemment une voix sublime, enjôleuse. Tout de suite, je pense au... Moi, j'ai un disque à la maison d'enregistrement Columbia avec une section cuivre absolument génial, c'est vraiment, c'est soyeux, c'est toujours élégant, c'est... voilà, Sinatra, c'est le plaisir à l'état brut, et puis la facilité aussi, parce que c'est quelqu'un finalement qui chantait comme il respirait, enfin, je pense qu'il... Est-ce qu'il travaillait beaucoup? Ça, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment sa biographie. Enfin, c'est quelqu'un qui vivait beaucoup.
Saturday night is the loneliest night in the week, 'cause that's the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek. I don't mind Sunday night at all, 'cause that's the night friends come to call. And Monday to Friday go fast, and another week is past. But Saturday night is the loneliest night in the week. I sing the song that I sang for the memories I usually seek, until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week.
Une vie tourmentée, des relations plus que douteuses. Hein. On sait qu'il avait des liens avec la mafia de la côte ouest, qu'il a eu des histoires quand même pendables avec des gens que personne n'aimerait fréquenter normalement. Voilà, enfin Sinatra, c'est tout un, c'est une époque aussi. Hein. C'est, voilà, ma femme est folle de Sinatra depuis toute petite, et elle est née à Sarajevo hein, dans les années 60. Et, Sinatra là-bas aussi, c'était une référence absolue.
C'est une époque musicale qui vous a marqué justement, que vous continuez d'écouter aujourd'hui ces balades.
Ah oui, tout à fait. Alors Sinatra, un peu plus le jazz peut-être, plus Coltrane ou des gens comme ça, mais c'est vrai que c'est une époque, je pense. J'ai dans l'idée qu'il y avait un amour du son, du beau son très élégant, c'est-à-dire quand on entend Sarah Vaughan et puis bien sûr Ella Fitzgerald. Alors c'est peut-être un petit peu avant, un petit peu plus tôt, mais quand on entend les enregistrements de Ella Fitzgerald qu'elle a fait de Cole Porter, par exemple, tout ce répertoire-là, c'est vrai que c'est absolument merveilleux. Les paroles sont très belles, généralement, très évocatrices, enfin c'est parfois même poétique. Et c'est en même temps des gens qui avaient vraiment les pieds complètement dans leur époque, enfin qui avaient une vie extrêmement riche, une vie sociale très riche. Enfin, Sinatra, c'est une star de cinéma en même temps. C'est une époque, c'est l'époque des films noirs américains qu'on aime voir. C'est, enfin voilà, c'est tout un monde, oui, qui habite notre vie quand même, hein, au jour le jour, je pense vraiment. Pour moi, l'équivalent en violoniste de Sinatra, c'est quoi? C'est Yasha Heifetz ou Itzhak Perlman. C'est-à-dire, c'est des gens qui, voilà, qui peuvent à la fois faire le grand répertoire. Alors, Sinatra, en l'occurrence, n'était pas un grand chanteur d'opéra, mais quand on voit ces grands violonistes qui ont joué beaucoup de petites pièces, ces petites pièces de Chrysler, ou qui faisaient des arrangements de Gershwin, par exemple. Enfin, quand en fait, ça arrangeait des petites pièces de Gershwin, c'est vrai qu'il apporte en 2 minutes 30 tout un petit monde, un monde de rêve, de beauté, qu'on a dans les chansons de Sinatra. Hein. C'est pour ça qu'il est toujours vivant, je pense, dans le cœur et dans l'oreille de beaucoup de gens. Enfin, on a toujours Sinatra comme musique de film qui arrive au milieu d'un film contemporain, enfin, d'un film fait en 2015 ou 2016. Je crois qu'il est toujours là, il est éternel. Hein.
Thank you.
Le violoniste Heifetz, que Sinatra cite parmi ses références, il lui a notamment inspiré son phrasé. Et tout de suite, nous écoutons le compositeur et pour occasion chef d'orchestre, Bruno Mantovani, grand amateur de Frank Sinatra.
Sinatra, pour moi, c'est une des plus belles empreintes vocales qui soit. Si son surnom était The Voice, c'est peut-être pas par hasard. C'est-à-dire qu'il a cette capacité en deux notes à vous faire comprendre qui il est et ce qu'il a envie de faire. C'est aussi quelqu'un qui, intuitivement, donne toujours des directions à la phrase. C'est, pour moi, c'est un grand chanteur de lead, un peu comme Fischer Dieskau qui soigne chaque mot quand il chante le répertoire allemand. Et bien Sinatra, il a une attention aux mots, à l'articulation. C'est quelqu'un qui n'a rien de chanteur d'opéra sur le plan vocal, mais qui a tout compris de ce que c'est que dire et transmettre avec la voix et en chanson. Il y a tout un répertoire de Sinatra, un répertoire symphonique ou un répertoire big band qui est merveilleux, qui peut quelquefois tourner à une chose un petit peu fleur bleue et un petit peu trop sentimentaliste. Mais il y a ce timbre rock, ce timbre d'italien immigré à la voix un petit peu cassée par les excès, qui tranche énormément avec l'orchestre et qui fait que même des choses qui pourraient dans les arrangements paraître un petit peu vulgaires restent très nobles parce que justement c'est sa voix qui transforme et qui transcende complètement des stéréotypes qui eux sont d'une certaine banalité. Moi je suis vraiment un inconditionnel de Sinatra, j'ai énormément de disques chez moi, les disques avec Count Basie notamment, puis les disques de chansons. Il y a même un disque que j'aime beaucoup qui est un de ses derniers disques avec des duos, et donc qui s'appelle Duets d'ailleurs je crois. Et il y a là-dedans des petits chefs-d'œuvre avec une voix à plus de 80 ans qui est totalement intacte. Il y a aussi quelque chose chez Frank Sinatra qui me bouleverse énormément, c'est son talent de comédien, de danseur. Il y a des comédies musicales extraordinaires avec lui. Je me souviens d'une où il est marin et où il chante une petite berceuse au beau milieu du film avec une tendresse extraordinaire, qui n'est pas la qualité première qu'on y reconnaît, et qui est vraiment un petit moment de grâce. Je crois que c'était aussi un artiste totalement complet. Lay thee down now and rest. May thy slumber be blessed. Lay thee down now and rest. May thy slumber. Pour moi, Sinatra, c'est un peu comme Stravinsky, Jean-Sébastien Bach ou Velázquez, c'est la fin d'une époque. On peut essayer de faire le crooner maintenant, mais ça a quand même un petit goût de photocopie mal faite. Je crois qu'il faut passer à autre chose quand on a connu de tels sommets, et Sinatra est un sommet incontestable. Non, je ne fais pas faire offense à Frank Sinatra, je ne fredonnerai rien, si ce n'est que quand on est musicien, on a l'écoute intérieure, et pendant que je vous parle, j'entends du Sinatra intérieurement. Mais je ne me permettrai absolument pas d'en faire deux notes, sous peine d'avoir un procès de la part de la famille pour mauvaise utilisation du droit moral.
À l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Frank Sinatra, France Musique rend hommage au plus célèbre des crooners. Au cours de cette journée vont se succéder témoignages, archives rares, concerts sur notre antenne. Et vous retrouverez dès 9h une émission spéciale présentée par Thierry Jousse et Laurent Valero qui retraceront la carrière de Sinatra en musique.
Merci Hugo Brisset, à bientôt.
À bientôt Dominique.
Encore, chérie, encore, chérie, when you're with me, it's rhapsody, it's fantasy, it's gay Paris, toujours l'amour. From the start, ooh la la la, goes my heart. Once more, my sweet, we're so complete when our lips meet. It's pink champagne, it's lover's lane, I go insane.
Hommage aux crooners ce matin dans Fabrication Maison, grâce à vous Jean-Yves Pat, et quelques raretés que vous nous avez apportées ce matin.
Oui, c'est une rareté, celle-là c'est un disque MGM, vous savez la fameuse maison de cinéma qui a édité quelques disques, soit tirés des bandes sonores de ses films, soit parce que c'était des succès, et ça a été le cas de cet Encore chéri avec Bud Breeze, qui a été en 1948 l'une des 5 meilleures ventes de disques aux États-Unis à cause de son côté Frenchy.
On les comprend. La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors Marie, aujourd'hui vous nous parlez de l'orgue de Radio France.
Oui, cet orgue qui vient de résonner pour la première fois jeudi soir à l'auditorium dans la symphonie pour orgue de Saint-Saëns. Cet orgue qui semble être un instrument magnifique.
Qui est, je témoigne.
Oui, et bien sachez que vous pouvez, cher Dominique, et vous aussi, chers auditeurs, rejoindre le cercle des mécènes de l'orgue de Radio France en parrainant l'un de ses 5320 tuyaux. L'objectif de cette collecte est de pouvoir organiser en particulier des activités pédagogiques dédiées à la découverte de cet instrument, également des concerts orgue et cinéma, ou encore des créations.
Alors Marie, dites-nous quel type de dons on peut faire.
5 montants sont proposés allant de 15 euros à 3000 euros.
Waouh !
Et des contreparties de plus en plus attractives et prestigieuses. Alors pour 3000 euros de dons par exemple, on vous offre un tuyau d'orgue fabriqué dans l'atelier de Gerhard Grenzing, qui est le facteur de cet orgue monumental. Et beaucoup d'invitations à toutes sortes de concerts et de manifestations.
Et pour 15 euros quand on a un petit porte-monnaie.
Pour 15 euros, entre autres, l'un des tuyaux de l'orgue de Radio France vous sera attribué. C'est-à-dire que vous recevrez un certificat mentionnant le nom de votre tuyau. Il y a parmi les 5320 tuyaux, notamment le Fa 3 de la Grosse Tierce, le Sol 2 du Nazar, le Do 4 du Clairon, etc. 5320 tuyaux qui constituent l'orgue de Radio France, des tuyaux qui vont de 1 cm à 8 mètres et qui sont répartis en 87 jeux. Chaque jeu correspond à un timbre différent, le plus souvent un timbre qui fait référence à celui d'un autre instrument. Il y a le jeu de trompette, celui de trompette bouchée, le jeu de cymbale, le jeu de basson, le jeu de clarinette, le jeu de contrebasse et beaucoup d'autres, parfois avec des noms simplement poétiques comme le jeu de la voix céleste, le jeu de chamade ou le jeu de corps de nuit. 30 tonnes, c'est le poids de l'instrument, c'est-à-dire si on calcule, cela fait 2 fois plus lourd qu'un orchestre, musicien compris. Dominique, je vous propose un petit quiz.
Allez, allez.
Dont vous êtes la seule candidate. Je n'ai choisi que des extraits faciles. À quel instrument l'orgue emprunte ici sa voix ?
Difficile. Un instrument à cordes ?
Oui.
Violoncelle ?
Bravo ! De Saint-Saëns pour violoncelle et piano, ici interprété par l'orgue, à l'orgue par Dom Richard Gagné. Deuxième extrait, Dominique.
Alors ça, ce sont des gros vents. Hein, ça oui, peut être, je sais
vous
pas.
Vous brûlez.
Allez, tu bats.
Bravo. Moussorski avec le fameux solo de tuba. Et ici, c'était pour illustrer le jeu de tuba de l'orgue et Jean Guillou en était l'interprète. Allez, un dernier extrait, Dominique ?
Allez.
Bon, c'est connu. Vous reconnaissez ce timbre, comment dire ?
Transparent, léger.
Transparent.
Vous avez pour moi, c'est de l'orgue.
De fait.
Allez, dites-nous tout, Marie.
La pavane de forêt, donc évidemment la flûte flûte et le hautbois, la clarinette aussi parfois. À l'inverse, l'orchestre est parfois traité comme un orgue par les compositeurs. C'est le cas dans beaucoup d'œuvres d'Anton Bruckner, qui était lui-même organiste et qui est d'ailleurs enterré sous son orgue à la basilique Saint-Florian en Autriche. Ce traitement de l'orchestre comme un orgue, on peut le repérer dans l'écriture par panneaux. Chez Bruckner, souvent, on passe sans transition d'un bloc orchestral à l'autre comme autant de jeux d'orgue sur lesquels on tire. Un extrait du final de la 8e symphonie de Bruckner par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Carlo Maria Giulini. Et cette 8e symphonie sera donnée la semaine prochaine, jeudi 17 décembre, à l'Auditorium de la Maison de la Radio, par l'Orchestre National de France. C'est une œuvre qui est rarement donnée, et cela fait d'ailleurs plus de 30 ans que l'Orchestre National ne l'a pas jouée.
Merci Marie Fauché, puis nous fêtons l'inauguration, c'est pas vraiment l'inauguration, mais les premiers sons de l'orgue de Radio France ces jours-ci. Je vous rappelle que vous pourrez l'entendre aujourd'hui à 18h à l'Auditorium avec la maîtrise de Radio France dans un concert de Noël.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique.
Bonjour cher crooner.
Dansons, joue contre joue.
Excellent, excellent. C'est vous Frank Sinatra ?
C'est moi.
Non, pour être plus sérieux, Jean-Yves Pat, le terme de crooner est un terme américain, mais est-ce qu'on peut parler de crooner dans les années qui nous occupent, c'est-à-dire le début du XXe siècle ?
Oui, le mot crooner, c'est vrai, est américain, ça veut dire susurrer à l'oreille, vous savez, l'homme qui parlait à l'oreille des dames en particulier, mais c'est un état de fait, en fait, c'est une constatation. Et il y a plusieurs ingrédients. D'abord, il y a ce que nous allons entendre tout de suite, qui est le chanteur à voix, le chanteur de charme.
Quand les lilas refleuriront, chantés par Mercadier.
<t'->
C'est pas très crooner, ça.
C'est pas très crooner, mais c'est une des composantes du croonage, si je puis dire.
Voilà.
C'est-à-dire, c'est une chanson sentimentale qui est destinée à émouvoir en vous des sentiments affectueux, amoureux. Mais évidemment, c'est pas très feng shui parce que le chanteur est obligé de chanter à pleine voix, un peu comme à l'opéra.
Donc, Émile Mercadier, voilà, en l'occurrence.
Émile Mercadier en 1906. On n'a pas ce sentiment de proximité qui fait la marque du crooner. Donc, il faut attendre quelques années. Et ces quelques années sont des années de radio. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque, vous le savez, la radio est la première à apprivoiser le micro. Et la voix du crooner est une voix de micro. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de déployer à plein poumon sa puissance vocale pour toucher les spectateurs du dernier rang, mais il lui suffit de susurrer dans le micro pour qu'on ait le sentiment qu'il s'adresse à vous. Alors, on va
faire... micro crée l'intimité.
Le micro crée la proximité, l'intimité. Donc on va avoir divers essais et vous allez voir que le premier est assez étonnant dans un air extrêmement connu qui est Body and Soul, un air américain ô combien célèbre.
My days have grown so lonely, for I have lost my one and only. My pride has been humbled, but I am yours, body and soul. I was a mere sensation, my house of cards had no foundation. Although it has crumbled, I still am yours, body and soul. What lies before me, the future is stormy, a winter that's gray and old. Unless there's magic, the end will be tragic, and echo the tale that's been told so often. My life revolved about you. What earthly good am I without you? My castles have crumbled, but I am yours, body and soul.
Célèbre Body and Soul, chanté par Jack Fulton, accompagné par l'orchestre de Paul Whitman. Ce que je trouve joli, c'est l'orchestration et puis la façon de faire répondre en écho un peu certains instruments sensuels comme la trompette, la trompette.
En fait,
bouchée.
Voilà, vous avez trouvé la deuxième composante de ce qui va faire l'art du crooner. C'est non seulement sa voix. Ici, Fulton joue sur la fragilité du timbre, une sorte d'émotion à fleur de peau, de confidence, avec une voix un peu de fausset qui se brise par moments. Et puis surtout, l'irruption du jazz, qui va donner une teinte nouvelle à des mélodies ou des romances qui sont immédiatement, enfin dans la décennie, passent au rayon des antiquités. Donc le crooner, c'est ça, il sait surfer sur la vague de la fragilité, des rythmes nouveaux et en même temps d'une certaine longueur, comme vous le disiez, des instruments qui se répondent, on a un sentiment de conversation, on est toujours dans cette idée de se faire plaisir les uns aux autres. Et
alors,
c'est à ça qu'on arrive.
Jean-Yves, est-ce qu'il y a un crooner français? C'est-à-dire, est-ce que ce style franchit l'Atlantique?
Oui, il y a même des échanges importants entre les États-Unis et la France. Le genre de la chanson française a influencé le genre crooner américain, de même que le jazz américain va influencer la chanson de Sarm française. Et peut-être le meilleur exemple, eh bien, c'est Jean Sablon, qui en 1936 susurre une chanson de Johnny Yes et Charles Trenet, « Vous qui passez sans me voir », et qui subjugue les foules et en même temps se fait haïr parce qu'on le dit « Ah ben c'est le petit chanteur sans voix parce qu'il a osé le micro sur scène pour la première fois ».
Sont là pour m'étouffer de larmes de fleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril, nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Passer sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, ces poèmes, ces jeunes et ces tristes aussi. Vous, qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu d'espoir. Aussi, passez sans me voir, sans me donner d'espoir. Adieu, bonsoir.
Vous qui passez sans me voir, Jean-Yves.
Alors, heureuse, poupée.
Non mais moi je trouve cette voix de Sablon extraordinaire. Jean Sablon, on oublie, avec l'orchestre Valberg, un disque Columbia à Paris 1936. Il y a aussi cette inflexion de la voix très particulière.
Oui, il y a une suavité du ton, il y a toujours cette recherche de séduction. C'est ça aussi qui fait la marque du crooner. C'est peut-être la dernière composante de ce fameux croonage. Même si le mot n'existe pas.
Non, puis c'est un état d'être, d'une certaine façon. C'est ce chanteur, à la fois séducteur et en même temps toujours un peu triste. Le héros fatigué.
Il y a une élégance désinvolte, un peu, peut-être. Avec un arrière-plan fatal. Mon Dieu, nous voilà bien partis.
Bon, alors on continue.
Alors on continue avec une curiosité. Le crooner, la vague du crooner, doit énormément à la radio, ça tombe bien, c'est dans notre thème. Et il y aura des deux côtés de l'Atlantique et bientôt dans le monde entier, des émissions spéciales avec des dédicaces pour Rosette Jolicoeur, qui ne pleure pas assez, voici, machin. Et alors, J'ai trouvé des disques enregistrés, ce sont des pirales, des pilotes d'émission, puisqu'on n'enregistrait pas sur les bandes, dans les années, allez, entre la fin de la guerre et les années 50, enregistrés par Jacques Sablon. C'est le cousin de Jean Sablon qui faisait de la radio sur Radio Monte Carlo, une radio concurrente, et qui faisait le quart d'heure crooner avec des dédicaces. Alors je vous propose d'écouter une dédicace avec une chanson croonée.
Mademoiselle Mireille de Nice m'écrit « J'ai 17 ans, timide, je montre difficilement mes sentiments. Au bal, j'ai rencontré un jeune homme vers lequel je me suis senti attiré irrésistiblement. Il m'a avoué qu'il m'aimait. J'en étais très ému, mais je ne sais comment lui avouer mes sentiments. Veuillez m'aider en chantant pour lui une belle chanson d'amour. Je ne crois pas que votre soupirant ait besoin de moi pour savoir que vous l'aimez, Mireille. Mais puisque vous le désirez ce soir, c'est pour vous deux que je vais chanter « Qui sait ?» Qui sait, qui sait. Tu jures que tu m'aimes bien plus que moi je t'aime. Pourtant, je dis quand même, qui sait, qui sait, qui sait. Tu dis que sur la terre, c'est moi que tu préfères, que nul ne peut te plaire, qui sait, qui sait, qui sait. Un soir dans une danse, un autre s'avance. Déjà ton cœur frivole, dans ta robe tourne et vole.
Étonnant témoignage, disque Pierra, l'étiquette Radio Monte Carlo. Je préfère quand même la voix de Jean à celle de Jacques dans La Famille Sablon.
Écoutez, on fait ce qu'on peut, mais
c'est lui surtout.
En tous les cas, c'est une curiosité absolue et ça tend à montrer cette vague, même qui va submerger toutes les radios, et Sinatra va en profiter évidemment pleinement. Et puis, c'est aussi une marque d'échange, puisque la chanson Qui sasse, qui sasse, qui sasse est une chanson qui vient d'Amérique du Sud et elle a été francisée par Luis Mariano, c'est vous dire. Ensuite, Henri Salvador, etc. Et notre Jacques Sablon.
Merci Jean-Yves.
À la semaine prochaine.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le souvenir de l'un de nos mélomanes fidèles, Michel Aknin. Silence. Silence mystérieux, silence absolu. Même les toux intempestives ont été ravalées au fond des gorges. Je ne suis pas loin de l'orchestre et j'ai vu le chef lever sa baguette, mais rien n'atteint mon oreille, et pourtant, les archers ont commencé à mordre les cordes graves des contrebasses. Puis peu à peu, une lente, très lente mélopée se répand. Les violoncelles viennent la renforcer très lentement, puis les altos, les violons, le reste de l'orchestre. Tous enfin réunis, ils pleurent en cachant leurs sanglots. Sans orage, sans tonnerre, sans marche funèbre, cadencés vers un quelconque cimetière. Ce sont des chants plaintifs, et ils donnent le frisson à la salle tout entière, qui ignore encore quelle en est la raison. Soudain, une jeune femme se met debout avec précaution, comme pour ne pas briser les sons qui l'entourent. Sa chevelure est blonde et sa peau laiteuse, on dirait qu'elle a dérobé à un fjord de Norvège l'acier bleu de sa robe. Et de sa voix plus douce et limpide que celle du vent tournoyant sur l'Arctique, la soprano nous chante la peine de toutes les mères du monde dont les fils ont été sacrifiés, la douleur de toutes les victimes de la barbarie. Car cette symphonie des chants plaintifs, œuvre du compositeur polonais Goreski, a été dédiée aux morts de la Shoah, mais aussi à tous les martyrs innocents. Et même si nous ne savons pas quels mots, quelles langues ont servi pour écrire en lettres de sang cette humble prière, car c'en est bien une, plus qu'un chant de désolation, notre âme continue de frissonner, jusqu'à ce que la musique lancinante disparaisse,
toujours très lentement, dans l'abîme des cordes des contrebasses. Que dire, sinon que la salle entière est demeurée un temps médusée, avant de se dresser unanime pour acclamer longuement cette œuvre peu connue en France, que la folle journée de Nantes avait tenu à inscrire à son programme 2015, consacré aux passions de l'âme et du cœur.
Thank you.
Pour illustrer le souvenir musical de Michel Aknin, nous écoutions l'un des mouvements de cette symphonie numéro 3 qu'il évoquait, d'Henrik Goreski. L'orchestre symphonique de la radio danoise est dirigé par John Axelrod et la soliste, c'est Isabelle Bérac-Darian. Ce sont vos souvenirs qui nourrissent cette rubrique, vous le savez, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos textes, que je me fais toujours un plaisir de lire à cette antenne. Question de cœur avec Sophie Janin. Bonjour Sophie Janin.
Bonjour.
Alors Sophie Janin, toutes les semaines vous répondez à ces questions de cœur. Tout le mois de novembre, nous avons abordé la technique de la direction, mais finalement les réponses suscitent de nouvelles questions. Alors, nous avons évoqué le travail des deux mains dans les deux dernières émissions, mais nous nous sommes dit, mais il n'y a pas que les mains. Donc il faudrait peut-être parler d'autre chose quand on parle de direction. Il n'y a pas que la main droite et la main gauche.
C'est tout à fait juste. parce qu'on communique finalement avec tout notre corps, avec notre visage aussi. Et c'est vrai que le langage est spécifique d'un chef ou un autre, il n'est pas seulement reconnaissable par rapport à sa technique pure, comment il se sert de ses bras et de ses mains, mais c'est aussi ce qu'il incarne. Si on prend un exemple, pour moi, un des plus grands chefs comme Bernard Haitink, je regarde son dos. Il est reconnaissable par rapport à son dos pour moi, qui déjà incarne la musique pour moi. On regarde aussi un chef très agile comme Seiji Ozawa par exemple,
qui
peut s'accroupir, qui est pas tout à fait planté avec ses pieds sur le podium, mais il peut bouger. Et puis bien évidemment, à part ce langage corporel qui est très différent, il y a bien évidemment le regard, l'âme, la personnalité. Elle passe quand même en grande partie par l'expression faciale.
Le regard qui tue. Il y en a quelques-uns.
Ah ben, on a des regards qui tuent. Moi, je sais que ça m'a... Même à moi, on me l'a souvent dit, hein, que j'avais un regard qui pouvait être extrêmement sévère. J'essaye d'expliquer, parce que c'est, là, pour le coup, c'était surtout des maîtrisiens.
Des enfants, donc.
Des enfants qui pouvaient avoir peur. Mais je leur explique que c'est surtout une question de concentration. C'est-à-dire que le regard nous permet quand même de rectifier énormément de choses. Alerter. S'il y a quelque chose qui est dangereux, on tourne un petit coin périlleux, on a un souci d'intonation, le regard peut rester intime entre le chef et les musiciens sans alerter le public que quelque chose est un petit peu plus périlleux à ce moment-là. Mais le regard sert aussi, bien évidemment, à tout simplement communiquer la partition, le caractère, et il peut également, en tout cas moi je le fais, il peut parfois aussi valider quelque chose de réussi. Et ça c'est important aussi.
C'est une relation que vous avez grâce au regard avec l'ensemble des musiciens ou des chanteurs, mais ça peut être aussi une relation personnelle avec l'un d'entre eux.
Oui, c'est quelque chose de très intéressant et parfois même très intimidant, parce que il y a des instants où on croise le regard d'un individu et quelque chose se passe. Mais vous savez, ça c'est comme dans la vie, quand on se retrouve juste yeux dans les yeux avec quelqu'un, ça peut être un moment... très précieux et qui peut-être va au-delà des mots. Et surtout quand on est en train de communiquer quelque chose sur la même longueur d'onde en musique, on peut avoir des connexions absolument merveilleuses. Et que ça soit des chanteurs du chœur de Radio France, des musiciens des orchestres, des enfants de la maîtrise, ces moments-là sont vraiment très riches. Mais je ne les cherche pas. C'est vraiment plus un accident qu'autre chose, parce que j'ai peut-être pas l'air, mais je peux être timide aussi. Et de regarder les gens directement dans les yeux, non seulement ça peut les intimider, mais ça peut aussi m'intimider moi. Donc souvent, j'essaye de pas isoler des musiciens séparément. J'essaye d'avoir un regard général où tout le monde se sent inclus, tout le monde se sent concerné. Et ça m'évite aussi, moi, de pas avoir une réalisation instantanée que « Oh non, 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 je suis devant tous ces mondes, toute seule ».
Pour illustrer cette chronique, le final bouleversant du dialogue des Carmélites de Francis Poulenc avec le chœur et la maîtrise de Radio France, extrait du très bel enregistrement publié dans la collection Ina Mémoire Vive.
Of the moon. Oh, where in the world can the stars from the sky shine into lovely eyes? And where did I first find the answer to my prayer? May I remind you that you were there? where in the world can a touch of the lips bring a total eclipse of cares in the world? And a future for two is the one thing in view. And where can I be sure that all my dreams come true? Oh, where in the world? Only with you.
Torride, l'orchestre de Freddie Martin avec Clyde Rogers, qui est véritablement celui qui a préfiguré Sinatra et même qui était son rude conquérant au tout début dans les années 30 à 40.
Chut, ne dévoilez pas tout. Merci Jean-Yves Pat pour toutes ces archives. C'est la fin de notre émission réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, Philippe Petit, Mathieu Tourin et Xavier Atto. Et place à présent à Frank Sinatra, enfin presque.